Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la LBB Radio. Je me présente, je m'appelle Roxane et aujourd'hui je suis accompagnée de Raphaël. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle émission où nous allons aborder de nouveaux sujets.
Bonjour, notre première chronique abordera la ville de Berlin et le voyage organisé dans cette ville par notre lycée. Nos deux chroniqueurs nous en parleront plus en détail.
Dans un second temps, nos deux chroniqueurs vont nous parler du sujet des migrants irlandais au 19e siècle.
Ensuite, nos deux prochains chroniqueurs nous expliqueront pourquoi fut-on la télévision pour aller regarder Netflix.
Notre quatrième sujet traitera de la place qu'occupe la musique dans la vie des enfants et des adolescents de nos jours.
Et enfin, notre dernière chronique parlera de la nouvelle image du football français.
Ça y est, c'est parti. Nous accueillons nos deux élèves germanistes qui ont participé au voyage organisé par notre lycée dans la ville de Berlin. On vous écoute.
Bonjour Raphaël et Roxane. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter la ville de Berlin ainsi que notre voyage scolaire. Nous nous sommes demandé tout au long du projet culturel, travailler en classe, comment la ville de Berlin s'est-elle remise de ces événements passés. Pour cela, nous allons parler de trois lieux de mémoire à travers lesquels nous sommes directement plongés dans le sombre passé de cette ville.
Quels sont ces trois lieux de mémoire que vous avez pu voir lors de ce voyage ?
Il s'agit du musée juif, du mémorial de l'Holocauste et du Reichstag. Ce voyage culturel a en effet nécessité un travail conséquent sur la capitale allemande. Das Jüdische Museum, ou le musée juif en français, accueille environ 10 millions de visiteurs par an depuis son ouverture le 9 septembre 2001. Ce chef-d'œuvre mondial du célèbre architecte américain Daniel Libeskind a été consacré à l'histoire et à la vie des Juifs en Allemagne. Ce musée vise à faire réfléchir, puis faire ressentir l'atrocité et la terreur ressentie par les Juifs. L'architecte a décidé de construire de longs, sombres et étroits couloirs. Dans un tunnel, le sol est couvert de visages en métal, représentant celui des Juifs écrasés et humiliés par les Allemands. Ce musée est composé de trois axes.
Les axes de circulation se présentent successivement. En descendant par le vide de l'entrée, on rejoint le sous-sol et l'axe de la continuité. Celui-ci est coupé par l'axe de l'exil qui mène au jardin de l'exil et l'axe de la mort qui mène à la tour de l'Holocauste. Ces axes sont de bas plafond, éclairés artificiellement et en pente. La profondeur de l'axe est ainsi accentuée. Les parois des axes sont penchées, accentuant le malaise des visiteurs. Le jardin de l'exil est composé de 49 piliers, au sommet desquels sont plantés 49 oliviers, représentant l'arrachement à sa terre natale que connaît chaque exilé.
Un mémorial a également été créé, le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe. Il se trouve dans un quartier berlinois appelé Mitte, à la place d'un ancien No Man's Land qui bordait autrefois le mur, proche de la porte de Brandenburg. Cet ensemble de blocs de béton traités contre les graffitis et toute autre dégradation est dédié aux victimes juives du génocide commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Impressionnant par sa sobriété et sa couleur uniformément grise, ce mémorial détient un musée juste en dessous de son mémorial qui représente la grandeur de trois terrains de football.
Nous allons poursuivre avec le palais du Reichstag qui est le siège du Parlement de la République fédérale d'Allemagne. Le bâtiment rénové par Norman Foster occupa un rôle central durant les événements cruciaux de l'histoire allemande. Incendié en 1933, peu de temps après la prise du pouvoir de Hitler, détruit par les bombardements de 1945, le bâtiment a été reconstruit pendant la division de l'Allemagne, puis restauré par l'architecte Norman Foster. Dans les années 1990, une coupole de verre a été reconstruite sur ce bâtiment néoclassique, ce qui permet d'avoir une vue à 360 degrés sur la ville et ce mélange de styles anciens et modernes est réussi. Cette coupole de verre est aussi là pour symboliser la transparence de la démocratie allemande en opposition avec la dictature du Troisième Reich.
Et comment s'est déroulé votre voyage ?
Les élèves germanistes de seconde et de première, ainsi que certains premiers scientifiques, ont participé au voyage culturel à Berlin, organisé par Madame Vellin et Monsieur Bernadet, qui n'a malheureusement pas pu nous accompagner. Les professeurs ont fait un magnifique travail d'organisation avant notre départ, mais nous, les élèves, nous avons également travaillé en faisant des exposés sur les monuments que nous allions visiter ou alors sur la vie berlinoise, mais encore sur les coutumes de la capitale. Nous avons dû nous documenter pour savoir ce que nous devions ou ne devions pas faire dans nos familles hôtesses, car les automatismes que nous avons en France ne sont pas forcément les mêmes.
Quelles sont vos impressions sur Berlin ?
Durant ce voyage, nous avons pu voir une Allemagne moderne, mais qui n'en oublie pas son passé pour autant. À travers les nombreux musées visités, nous avons pu assouvir notre soif de connaissances et nous avons également été totalement plongés dans la période de la guerre froide, avec la prison secrète de la Stasi par exemple, qui enfermait dans d'atroces conditions, principalement des résistants au régime politique. Aujourd'hui, cette prison peut se visiter et la majorité des guides sont des anciens prisonniers. L'Allemagne et la France étaient de grandes rivales lors des guerres et aujourd'hui, grâce au traité de l'Élysée que nous avons pu voir lors de notre visite à l'ambassade de France en Allemagne, nous sommes très liés. L'Allemagne n'oublie pas son passé, mais elle ne cesse d'évoluer tout en gardant de nombreux lieux de mémoire. Nous ne pouvons pas traverser les rues de Berlin sans se souvenir des événements passés. Berlin est une ville moderne, tournée vers l'avenir. Lors de notre retour en France, après de longues heures de route, après ce beau voyage enrichissant, nous avons été fiers de présenter à nos parents, lors d'une soirée, le travail que nous avons réalisé dans le cadre de ce projet. Nous garderons tous un merveilleux souvenir de ce voyage. À cet égard, nous avons interviewé un élève qui a participé à ce voyage et qui nous a fait part de ses impressions.
On est en compagnie de Benjamin, première S1.
À première vue, qu'as-tu pensé de Berlin ?
À première vue, j'avais une vision un peu négative sur Berlin parce qu'on a, appris des choses en histoire, comme quoi on était vraiment les ennemis de l'Allemagne à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On a appris également tous les génocides juifs qu'il y a pu avoir, avec la guerre froide notamment à Berlin. Et donc ouais, j'avais une vision très négative de Berlin, donc des gens qui étaient.
Cela correspondait-il à tes attentes ?
Et finalement pas du tout, c'était seulement des préjugés et chaque personne que j'ai rencontrée là-bas était très sympa, très souriante. Les mentalités ont complètement changé, c'est plus du tout ce qu'on m'a décrit d'autres fois.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ce voyage ?
Ce qui m'a le plus marqué durant ce voyage, je dirais que c'est la prison de la Stasi. On a pu voir les cellules dans lesquelles étaient les prisonniers. Des cellules carrées, sans lit, que du mur. On a pu voir les conditions atroces que les prisonniers, souvent innocents, vivaient.
Quelle visite as-tu le plus apprécié ?
Ce que j'ai le plus apprécié comme visite... le mur de Berlin déjà, le East Side Gallery, où beaucoup de personnes, de peintres, d'artistes ont fait des œuvres d'art avec des messages très forts, des belles peintures. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est le Reichstag. C'est un monument très grand, très beau, avec une architecture très particulière, très lumineuse. Et voilà, ça m'a plu d'être en haut. On a pu observer toute la ville depuis le Reichstag.
Aimerais-tu y retourner ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ouais, j'aimerais bien y retourner parce que déjà la famille qui m'a accueilli là-bas était très très sympa, je l'ai beaucoup apprécié, j'aimerais bien les revoir. Et puis j'aimerais bien y retourner pour visiter l'autre côté, le côté ouest, puisqu'on a visité principalement le côté est, et j'aimerais bien aussi visiter d'autres choses que tout ce qui est monuments juifs, tout ce qui est en rapport avec la guerre froide, parce que c'est principalement ce qu'on a fait. Donc j'ai aussi envie de voir les autres côtés de Berlin.
Merci à vous d'avoir partagé avec nous vos moments durant ce voyage.
Maintenant, on reçoit Louis et Nina qui vont nous présenter leur sujet sur les migrants irlandais durant le 19e siècle.
En angle euro, avec notre professeur, Madame Huchon, nous avons travaillé sur l'Irlande. Tous les élèves de la classe ont préparé des petits reportages sur différents thèmes. Aussi, Nina et moi-même avons décidé de vous faire partager aujourd'hui cette thématique en vous parlant de l'immigration de nombreux Irlandais au 19e siècle, vers le Canada ou les États-Unis, dans l'espoir d'un meilleur avenir. Nous avons opté pour une chronique rédigée en anglais que j'aurai le plaisir de vous faire entendre, accompagnée d'une traduction simultanée que Nina a préparée pour vous, chers auditeurs. Following the Great Famine in Ireland between 1845 and 1849, many Irish people sought to emigrate in search of a better life, often in the USA or Canada.
Durant la Grande Famine irlandaise de 1845 à 1849, beaucoup d'Irlandais ont émigré aux États-Unis et au Canada dans l'espoir de trouver une meilleure vie.
Towards the end of the 19th century, around 90% of Irish immigrants to the USA made the sea crossing in large steamships. The biggest transatlantic liners made their journey with around 1,900 people on board. Of these, around 1,100 would have traveled in steerage third-class accommodation on the enclosed lower deck of the boat.
Vers la fin du 19e siècle, environ 90% des immigrés irlandais sont allés aux États-Unis par la voie maritime dans des bateaux à vapeur. Les plus grands bateaux comportaient lors de leur voyage environ 1900 personnes et 1100 d'entre elles voyageaient en troisième classe située au bas du bateau.
The journey typically lasted between 7 to 10 days and conditions for the immigrants were difficult. They slept on bunks, with over 100 of them crammed into the same room, like cattle.
Un trajet type durait entre 7 et 10 jours. Les conditions de vie de ces voyages étaient difficiles. Les migrants dormaient sur des couchettes, ils étaient tous entassés, pouvant aller jusqu'à 1000 personnes dans une même pièce. Les immigrants étaient donc traités comme des animaux, voire du bétail.
In the early days, passengers in steerage were treated even less well and many died of starvation or diseases such as typhus or cholera, giving rise to the nickname of coffin chaps. Despite the introduction of laws to protect migrants traveling in steerage, they were difficult to enforce and often steerage conditions remained deplorable.
Lors des premiers jours, les passagers étaient encore moins bien traités que lors du reste du voyage. Beaucoup d'entre eux sont morts affamés ou à cause de maladies comme le typhus et le choléra, d'où le nom de bateau-cercueil. Malgré les lois passées pour la protection des migrants voyageant en troisième classe, il était difficile de réellement respecter ces règles. Les conditions de la troisième classe étaient donc toujours déplorables.
On arrival in the USA, cabin passengers disembarked and headed directly to customs and their new life in the USA. For those who were traveling in steerage, however, the journey was not yet over. They had to take a ferry or a boat to Ellis Island, the migrant processing center in Upper New York Bay.
Lors de leur arrivée aux États-Unis, les passagers de la première classe désembarquaient et commençaient directement le cours de leur nouvelle vie. Cependant, pour ceux qui voyageaient en troisième classe, le voyage n'était pas encore terminé. Ils devaient prendre un ferry en direction de Ellis Island, le centre des migrants.
The immigrants arrived on the second floor of Ellis Island, called the registry room. Most of their time there, on average between 2 or 5 hours, was spent waiting to be examined and processed. During the legal inspection, arrivals were asked 29 questions, including name and occupation, and they had to show that they had around $25. And were fit to work since the American government did not want migrants who'd be a burden. Doctors examined them in a 6-minute physical, checking for weakness or contagious disease.
Les immigrants arrivaient donc dans le second niveau de Ellis Island, appelé la salle de l'appel. Ils y restaient entre 2 et 5 heures afin de subir des examens et des processus médicaux divers. Lors de l'inspection légale, les Irlandais répondaient à 29 questions où ils devaient indiquer leur nom, leur métier et devaient montrer qu'ils avaient environ $25 afin de payer leur entrée au pays car le gouvernement américain avait qualifié les migrants de fardeau. Les docteurs ont examiné les migrants grâce à un test nommé 6-minute physical pour vérifier s'ils avaient des faiblesses ou des maladies contagieuses.
More than 3,000 will-be immigrants died on Ellis Island, and around 2% were denied admission to the USA, although Ellis Island was the gateway for over 12 million migrants to the USA, of which an estimated 3.5 million were Irish.
Plus de 3000 futurs immigrants sont morts à Ellis Island et environ 2% d'Irlandais ont été refusés à l'admission aux États-Unis. Mais Ellis Island a accueilli plus de 12 millions d'immigrants aux USA, dont 3,5 millions d'Irlandais.
The Emergency Quota Act of 1921 greatly limited the number of migrants authorized to enter in the USA. And Ellis Island finally closed its doors on November 1954. It has been an immigration museum since 1990.
Cependant, The Emergency Quota Act, loi gérant les quotas d'immigrants passés en 1921, a énormément limité les nombres de migrants entrant aux États-Unis. Finalement, Ellis Island a fermé ses portes en novembre 1954. Aujourd'hui, nous pouvons le visiter car il est devenu un musée depuis 1990.
Merci pour tous ces détails.
Et tout de suite, nous retrouvons nos deux chroniqueuses, Lilou et Nina, qui vont nous expliquer pourquoi fuit-on la télévision pour aller regarder Netflix. C'est à vous.
Bonjour, ravie d'être en votre compagnie. Nous allons vous parler de Netflix. En effet, Netflix est une application américaine créée en 1997 qui vit son apogée aujourd'hui. Cette application permet à un public de tout âge de regarder au choix et à la demande des films, des séries, ainsi que des programmes créés par Netflix. Netflix a fait son apparition en France en septembre 2014. Elle représente donc une nouvelle manière de regarder la télévision pour les Français.
Quelle est la différence entre Netflix et la télévision ?
Il existe une différence majeure entre Netflix et la télévision. Netflix permet de choisir son programme à la demande, tandis que la télé impose ses programmes et ses horaires sur des chaînes différentes. Autrement dit, ses clients peuvent regarder le programme qu'ils veulent, quand ils le veulent. Il propose aussi des comptes personnalisés avec des propositions de films ou d'émissions selon les préférences et l'âge de l'acheteur. Netflix permet aussi à plusieurs habitants d'un même foyer de regarder une émission différente sur un appareil connecté différent. Il est donc possible que 3 personnes regardent dans un programme différent dans une même maison.
N'oublions pas qu'aujourd'hui, la télévision ne produit pas de films ou de séries. Elle propose des téléfilms et séries créés auparavant par des studios de réalisation indépendants. En revanche, Netflix propose des séries créées par son entreprise qui, en 2018, dépensera 8 milliards de dollars pour les produire. Certaines sont très connues, voire les plus populaires en ce moment, comme Stranger Things, Riverdale ou La Casa de Papel, série qui fait fureur depuis janvier 2018. De plus, certains studios de réalisation vendent leurs films à Netflix pour qu'ils soient diffusés sur leur site.
Quels sont les effets produits sur ceux qui regardent Netflix ?
Tout d'abord, il est important de souligner le fait que Netflix a des effets différents sur ses spectateurs selon les générations. Pour le cas des jeunes, Netflix est considéré comme une révolution. Cette application permet de créer des liens car ses programmes sont souvent sujets de conversation dans les cours de l'école. Leur accès au programme Netflix est très simple et direct. Il est très facile en général pour eux d'accéder aux films et aux séries de leur choix car ils sont pour la plupart connectés aux réseaux sociaux. Cela leur est donc familier d'utiliser cette application. En revanche, les personnes âgées ont plutôt du mal à s'adapter à cette nouvelle manière de regarder la télé. Il est difficile pour une personne dite non connectée de se mettre dans le bain et de comprendre vraiment l'utilité et l'usage de Netflix.
Par exemple, une personne de 15 à 24 ans passe environ 12 minutes devant la télévision, tandis que les personnes plus âgées passent beaucoup plus de temps devant cet écran, cela pouvant aller jusqu'à plusieurs heures. Netflix est souvent vu comme une révolution, et comme les réseaux sociaux, créateurs de liens. Cependant, n'oublions pas que le principe de regarder chacun de son côté une émission crée une séparation entre les différentes générations. Les jeunes préfèrent Netflix, la télévision est donc moins regardée, et les moments familiaux devant celle-ci sont donc beaucoup plus rares. Cela crée alors une isolation des personnes avec un écran par personne.
Pourquoi préfère-t-on la télévision, Netflix à la télévision ?
Il est évident que Netflix représente aujourd'hui la nouveauté. En effet, la jeunesse s'intéresse aux nouvelles technologies et applications diverses. Pour le cas, cette application leur permet de se connecter depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ils peuvent donc être connectés à tout moment et à tout endroit. De plus, la télévision étant devenue simpliste, elle est regardée par de moins en moins de gens. Les programmes imposés ainsi que les horaires fixés ne conviennent plus à la population, celle-ci étant devenue habituée aux programmes à la demande. Netflix leur offre donc une certaine autonomie à des prix convenables, voire bas. Il est alors évident que Netflix connaît aujourd'hui une période de révolution.
Pour conclure, nous pouvons vous dire que Netflix est sur le chemin de la gloire. Beaucoup de personnes ont remplacé la télévision par cette application. Celle-ci comptait déjà plus de 120 millions d'abonnés en fin 2017, ce qui fait environ 30 nouveaux millions d'abonnés par trimestre. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Netflix dépasse aujourd'hui la télévision et on peut donc se poser une question. La révolution streaming initiée par Netflix va-t-elle tuer la télévision ou celle-ci sera-t-elle capable de s'adapter ?
Merci les filles de nous avoir apporté des informations sur ce sujet.
Nous sommes encore sur la LBB Radio. Nos deux prochains chroniqueurs sont Anakin et Lauren, qui vont nous apporter des détails sur la place qu'occupe la musique chez les jeunes et les adolescents de nos jours.
Bonjour Raphaël et Roxane. En effet, notre chronique portera sur la musique et la place qu'elle occupe chez les jeunes.
Les Français écoutent-ils beaucoup de la musique ?
L'activité musicale chez les Français est en effet très présente de nos jours. En effet, la musique est une activité très importante pour les Français, avec 6 Français sur 10 qui déclarent en écouter tous les jours ou presque. La musique arrive assez naturellement en tête et des activités dont les Français peuvent le moins s'en passer. En détail, nous pouvons dire que les moins de 35 ans déclarent notamment en écouter plus souvent, mais peuvent encore moins s'en passer que les autres Français interrogés. Au-delà de l'écoute, la pratique de la musique semble également davantage concerner les plus jeunes. En effet, si seul un Français sur 10 déclare jouer un instrument de musique, souvent ou de temps en temps, un quart des Français de 18 à 24 ans l'affirme.
Nos goûts musicaux sont différents suivant l'âge que nous avons. Généralement, les jeunes de 15 ans à 17 ans écoutent les derniers tubes de musique électronique ou R&B à la mode, ou encore la pop. Voilà un extrait de la chanson basique d'Orelsan, célèbre rappeur sacré artiste masculin de l'année. Le rappeur remporte aussi les trophées de la musique création audiovisuelle et de l'album de musique urbaine aux victoires de la musique.
Okay. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple.
Quant à eux, les parents âgés de 40 ans à 50 ans écoutent de la variété française, mais aussi beaucoup de musique que leurs enfants écoutent à la radio, comme Energy ou Skyrock. La musique est intergénérationnelle. L'artiste veut nous donner du plaisir à écouter ses musiques et à les partager.
Comment l'écoute de la musique s'est-elle démocratisée chez les jeunes ?
Historiquement, en France, les radios libres ont permis de démocratiser la musique auprès des jeunes. Au départ, les radios émettaient clandestinement de la musique dans les années 1970. En Europe, pour revendiquer la liberté d'expression, elles ont diffusé les premiers titres de pop, jazz, rock auprès d'un jeune public. À la fin des monopoles d'État dans le domaine de la radio et de la télévision, qui fut effective en 1981, la musique a enfin pu se libérer et être diffusée de manière libre et générale auprès des jeunes. Les radios libres en France ont permis aux jeunes de l'époque de pouvoir écouter librement et gratuitement de la musique et des artistes peut-être peu connus en France à ce moment, c'est-à-dire qu'ils ont pu développer et découvrir de la musique grâce à ces émissions clandestines. Cela a permis à la musique de se découvrir un public mondial. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 3000 radios qui passent de la musique clandestinement. Les plus connues sont Energy, Fun Radio, Skyrock, RTL, France Info, etc. Ces radios ont tous une identité et un style de musique qui leur est propre. Par exemple, Skyrock diffuse principalement du rap, tandis que RTL ou Fun Radio diffusent surtout de la pop ou de l'électro.
Quel impact la musique a-t-elle chez les jeunes ?
Avec l'aide d'un professionnel, nous avons pu voir que la musique a pris plusieurs impacts chez les jeunes. Pour Michel Fize, qui est un sociologue français et qui est aujourd'hui retraité du CNRS, nous pouvons sûrement parler d'une peur de manquer. Ce que Michel Fize pense et nous dit, c'est que cela révèle une peur du vide, qu'il n'y ait plus rien au bout des écouteurs. La musique sert à briser les solitudes. Le face-à-face avec soi-même peut être générateur d'angoisse, donc cette boulimie peut donc être une manière de se prémunir contre une éventuelle pénurie. Selon Hervé Glevarec, sociologue français ayant mené des enquêtes qualitatives et quantitatives sur les loisirs numériques et culturels des préadolescents, la culture du partage est également bien ancrée dans la tête des adolescents et cela se définit fortement par rapport à leurs amis. Mais aussi avec le partage de la musique avec les copains notamment, via les réseaux sociaux comme Facebook ou des playlists, des compilations, etc. La musique fait effectivement partie de la culture des jeunes depuis longtemps. Comme le souligne ensuite Michel Fize, aujourd'hui, on a l'impression que les enfants naissent avec une partie de leur cerveau formaté pour l'écoute musicale. C'est donc plus que de la culture, la musique fait à présent partie de la nature adolescente.
Merci Anakin et Laurent pour ces détails.
C'est nos deux derniers chroniqueurs, Audrey et Adrien, qui vont nous expliquer qu'est-ce que la nouvelle image du football français.
Bonjour. Aujourd'hui, pour réussir dans le monde du football, il ne faut pas se contenter de taper dans un ballon. Il ne suffit plus d'avoir des qualités hors normes, il faut savoir gérer plusieurs points. Dans le cas inverse, au moindre dérapage, des joueurs ont perdu leur popularité à travers des coups d'éclat ou paroles.
Et justement, pouvez-vous nous citer quelques exemples ?
Alors tout d'abord, des joueurs français voués à la réussite ont perdu leur popularité à travers des scandales. Ils furent nombreux dans ce cas-là à être annoncés comme des futurs grands joueurs.
Nous avons l'exemple de l'affaire de la sextape. C'est une affaire qui a provoqué beaucoup de remous au sein de la Fédération française de football. C'est en juin 2015 que l'affaire éclate lorsque Mathieu Valbuena, à Clairefontaine, reçoit des coups de téléphone. À l'autre bout du fil, plusieurs hommes tentent de le faire chanter en lui demandant 150 000 euros en échange de la non-divulgation d'une vidéo intime le montrant avec sa compagne. Le joueur décide alors de porter plainte. Benzema est visé pour avoir aidé les maîtres chanteurs à rentrer en contact avec Valbuena.
Il y a ensuite l'affaire Nasri. C'est une scène qui a terriblement surprise. Alors qu'un journaliste demandait à Samir Nasri une réaction après la défaite de la France face à l'Espagne en zone mixte, le milieu de terrain des Bleus s'est énervé en estimant que les journalistes cherchaient à lui causer des ennuis. Comprenant que le meneur de City ne s'arrêterait pas pour parler au micro, le journaliste lui lança une pique et c'est à ce moment-là que Nasri commença à l'insulter et à le menacer.
Et pour finir, l'affaire Anelka. Lors de la mi-temps du match France-Mexique lors de la Coupe du Monde 2010, Raymond Domenech aurait fait une réflexion sur son positionnement lors de la première mi-temps. Le joueur ne l'aurait pas du tout apprécié avant de le montrer à sa façon. Nicolas Anelka insulta le sélectionneur. Quelques jours plus tard, il sera exclu du groupe France avant la fin du parcours de la France en Coupe du Monde.
À travers ces nombreux scandales, on peut remarquer qu'à la suite de leurs erreurs, ces joueurs français, malgré leur talent, sont rejetés par une grande partie des Français qui ne veulent plus en entendre parler.
Comment garder une bonne image de soi-même ?
Il ne suffit plus d'être un bon footballeur. Il y a en effet trois points essentiels à prendre en considération pour gérer son image.
Alors le premier point qu'on peut citer, c'est l'éducation. Pour avoir les pieds sur terre, il faut déjà avoir un très bon entourage. Cela comprend les parents, la famille, les entraîneurs, les éducateurs. Cela permet de ne pas perdre la tête et de rester lucide dans ses choix, mais surtout de se consacrer essentiellement au football. C'est le cas de la star brésilienne Neymar Junior, qui est très bien accompagné de son père. Son père est son agent, il lui gère son compte en banque et lui prend les rendez-vous marketing. Par exemple, son père a eu un grand rôle dans son transfert au PSG. C'est aussi le cas d'Adrien Rabiot, qui a comme agent sa mère qui l'accompagne dans sa carrière professionnelle.
Pour continuer, il y a aussi le point de la communication. Aujourd'hui, il faut savoir bien gérer ses réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un endroit de communion entre le joueur et ses fans. C'est le cas de grands noms du foot qui sont très souvent sur les réseaux sociaux en publiant des photos d'eux pendant leur match, pendant leurs loisirs, avec leur famille ou en posant avec des vêtements pour faire de la publicité avec leurs sponsors. C'est le cas, par exemple, de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui sont les personnalités les plus suivies sur Instagram et qui donc deviennent des objets marketing. Les joueurs sont rompus à l'exercice de la conférence de presse et maîtrisent tous les éléments de communication. En effet, il faut avoir de la maturité pour répondre aux journalistes après un match qui peut avoir été perdu. C'est le cas du capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui s'arrête systématiquement après chaque match pour répondre aux journalistes, tout en faisant preuve de maturité.
Enfin, le dernier point essentiel, ce sont les actions caritatives. De nos jours, de plus en plus de joueurs mondialement connus n'hésitent plus à verser de leur argent dans des œuvres caritatives afin d'aider les plus démunis. Ces joueurs ont énormément la cote auprès du public, et à travers ces actions, les joueurs cherchent aussi à garder ou amplifier leur belle image. On a l'exemple des trois plus grands joueurs du moment.
Pour commencer, Neymar, la star brésilienne, a inauguré récemment son institut à destination des enfants défavorisés. Ce centre éducatif et sportif, que le joueur du PSG a développé avec l'aide de sa famille, a pour objectif de favoriser l'insertion sociale des plus démunis. Il devrait profiter directement à quelques 2300 enfants, âgés de 7 à 14 ans. En 2017, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont engagés en faveur des enfants en difficulté. De plus, ces deux joueurs n'hésitent pas à donner de l'argent pour le bien de personnes en difficulté, ce qui leur vaut une très bonne image auprès des amateurs du ballon rond.
Et alors, quelle est cette fameuse nouvelle génération dorée ?
La nouvelle génération, pour garder les pieds sur terre, devra être très bien entourée, sinon cela peut très, très vite mal tourner pour son image.
On a l'exemple des deux chouchous du public français.
Tout d'abord, le héros de l'Euro 2016, Antoine Griezmann. Il demande l'autorisation à sa famille et surtout à son papa avant de prendre une décision importante. Son père a aussi confié qu'il gérait le compte de son fils et que quand son fils faisait quelque chose qui ne lui ressemblait pas, il n'osait pas lui dire. Voilà d'où sort la bonne image du chouchou des Français.
Pour continuer, le nouveau phénomène du football, Kylian Mbappé, a vu exploser sa valeur jusqu'à atteindre des sommes folles. Mais grâce à ses parents, qui sont ses agents et lui gèrent tous les aspects de sa carrière, il peut se consacrer à garder sa bonne image. Kylian, à peine âgé de 19 ans, fait preuve de classe devant les micros, ce qui est extrêmement rare pour son âge. De plus, ses parents n'hésitent pas à le remettre à sa place quand il le faut.
Être aimé du public, cela se gagne.
Et vous, que pensez-vous de la nouvelle image du football français ?
Pour nous, la nouvelle image du football est très bonne. Le football connaît un nouveau départ en France pour le plus grand bonheur des Français.
Merci Audrey et Adrien pour cette dernière chronique.
Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous remercions tout d'abord nos professeurs qui nous ont aidés dans notre recherche, ainsi que nos chroniqueurs et techniciens sans qui cette émission n'aurait pas été réussie.
Au nom de toute l'équipe de la LBB Radio, nous espérons vous retrouver très bientôt pour de nouveaux sujets de chronique.
Merci à toutes et à tous.
À très bientôt.